I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan.
Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un film bien dans le ton, en fait, des stéroïdes. Il s'agit de The Expendables 2 et avec Sylvester Stallone, mais aussi avec Jet Li, Jason Statham, Dolph Lundgren. Et je suis avec un autre musculeux pour en parler. Je suis avec mon ami Yannick Dahan. Salut Yann, ça va ?
Oui, ma foi, ça va très bien.
ça va bien parce qu'on va parler d'Expendables, donc le premier. Oui, hein, uniquement oui. Le premier, c'est une franchise, il y en a eu trois. Mais c'est vrai que pour moi, je pense que c'est pour toi la même chose, en fait, c'est mon préféré des trois.
Clairement.
Et c'est peut-être même la dernière fois où, moi j'ai envie de dire, Stallone a vraiment démontré ses capacités d'action héros de manière aussi prononcée. Quoi,
le comme John Rambo avait été fait avant.
Avant, oui.
Avant, ouais. D'accord. Okay.
Et non, justement, c'était l'époque où il est revenu avec Rocky Balboa en 2006, puis John Rambo en 2008. Et après, quelle était la suite de sa carrière, parce qu'il avait vraiment retraité ses deux persos phares.
Ouais.
Et en fait, il est parti sur cette espèce de douce salopard à sa manière, un peu, en fait, où il s'est dit, je vais aller chercher tous les gros bourrins qui ont finalement fait des films dans mon sillage, quoi.
Exactement.
Les Jason Statham, les Dolph Lundgren, des mecs à qui lui doivent leur carrière, des fois même, parfois. Et pour faire ce film qui a été un succès, quand il est sorti en 2010, mais qui a été quand même assez décrié par pas mal de fans du cinéma d'action de justement des années 80, parce que c'était vraiment clairement un retour à ce cinéma-là.
Et puis même moi, enfin le truc qui est intéressant, je pense, enfin là je l'ai revu. Plus je revois ce film, plus j'y prends plaisir. Mais j'étais le premier à dire à la sortie du film, bon, c'est kiffant, tout ce que tu veux, parce que c'était les types de notre jeunesse, ça nous faisait délirer de tous les voir ensemble. Après, je pense qu'on avait cette limite à l'enthousiasme qui était, qui plus est, après John Rambo et Rocky Balboa, qui sont des films de personnages, qui sont vraiment du cinéma, qui creusent ces personnages, où le scénario est important, même si la réelle, tout ça l'est derrière, mais on est vraiment sur des mythes du cinéma. Et là, ça, on savait qu'on allait voir, pour le coup, vraiment un film concept, parce que c'était concept.
Le truc, mais à l'ancienne, quand même.
À l'ancienne, mais le truc, je pense, c'est que... après un Rocky Balboa, après un John Rambo qui était inespéré, qui était en plus pour moi des très grands films. Enfin, c'est-à-dire l'un comme l'autre, je suis un inconditionnel de ces deux films-là. Il y avait peut-être, l'espoir que le film soit à la mesure de ce fantasme décuplé qui était non seulement là, c'est pas simplement John Rambo, c'est pas simplement Rocky Balboa, putain, c'est Schwarzenegger, c'est Jason Statham. Donc on savait qu'on allait être dans un truc qui était forcément un film concept dans le sens où on n'allait pas être immergé. On ne pensait pas qu'on allait être immergé. On pensait qu'on allait avoir ce recul ironique sur « je joue avec des codes, avec des icônes, avec des fantasmes ».
Ce qu'ils ont fait dans la suite.
Oui, mais il y avait quand même ce truc de se dire « le mec réussit à réunir toutes ses stars dans un film. Merde, il faut que son récit et que son histoire... » soit à la mesure de ce que représente cette team, c'est-à-dire de faire revenir cette team. Et je pense qu'un des éléments déceptifs du film, la première fois qu'on l'a vu, c'est qu'au-delà des clins d'œil qu'on attendait, au-delà de la scène complètement fake avec Schwarzenegger et Bruce Willis, qui en plus est une horreur visuelle, on s'attendait à tous ces trucs-là, mais on s'attendait au moins que, putain, qu'il y ait des enjeux qui jouent là-dessus. Et en même temps, ce qui nous a paru comme un défaut, et pour moi finalement une qualité a posteriori, c'est-à-dire, non mais mec, c'est quoi c'est, ils ont, tu vois, c'est-à-dire que même le fait de leur de leur donner des noms était quelque part dérangeante. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, du coup, toi, tu allais voir Dolph Lundgren, Schwarzenegger, Steven Seagal, et tout d'un coup, on te dit, c'est Barney Ross, c'est bidule. Déjà, t'es là, bon, ça fait bizarre. Et puis, ces mecs, ils vont faire une mission à la con sur une île comme dans Commando, avec un dictateur, mais ridicule, un truc de la série, enfin, le script qui t'apparaissait, en tout cas, à l'époque, comme étant le plus basique total. Et puis finalement, avec le recul, en revoyant, et du coup, moi, je trouvais qu'à l'époque, ce qui me gênait était ce côté... Ça avait un côté briquet de broc, du coup, pour moi. C'était, j'avais la séquence référentielle, je fais ma séquence Jason Statham, je fais ma séquence Jet Li, je fais ma séquence Bidule, donc je suis dans le référentiel que j'attends. Et en même temps, je te fais une scène émotionnelle avec Mickey Rourke, puis je te traite un enjeu un peu pété de film d'action de base, et tout ça, on avait l'impression que ça ne matchait pas. Et puis en fait, moi, je revois le film maintenant, et je trouve qu'il est beaucoup plus harmonieux qu'il ne m'est apparu à l'époque, et que justement, il est allé au bout. C'est-à-dire que tout ce que je reproche au cinéma moderne, moi, qui est de ne jamais tenir sa promesse, et puis alors c'est un, jamais tenir sa promesse, et deux, dans un monde qui passe son temps à te dire que ce qu'il y avait avant n'était pas bien, parce qu'il n'y avait pas de femmes, parce que les acteurs noirs n'étaient pas valorisés dans les films d'action, parce qu'il n'y avait pas de réalisatrice, tout ça. Et alors, ils te disent ça à longueur de journée, mais plutôt que de proposer des œuvres qui correspondent à leur nouvelle idéologie, qu'est-ce qu'ils font? Ils te prennent les concepts des années 80, genre, donc, mais en fait, vous aimez ça, alors on vous le prend, mais on vous le transforme avec notre idéologie, et ça ne marche pas, parce que du coup, tu n'as jamais la réponse à la promesse. Et là, je me dis, a posteriori, ben, en fait, le mec, il était carré jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il a sa team référentiel, ces restats, ils jouent là-dessus, ils s'en amusent, on le voit, on se marre, et en même temps, son scénar, c'est un pur scénar des années 80, c'est-à-dire que même en termes de narration, il est fidèle au passage obligé et au code qui représentait ce cinéma-là de l'époque, ce qui m'apparaissait déceptif finalement, je le trouve beaucoup plus cohérent le revoyant, voilà, tu vois, donc... après, le film a les qualités qu'on connaît, qu'on aime bien. Et
certains défauts, même, j'ai envie de dire. Parce que le truc, c'est que moi, je pense que c'est quand même, même à la revoyeur, c'est quand même un problème, en fait, ce truc sur la CIA qui va.
Non, mais c'est bidon. Mais c'est pas plus bidon que certains enjeux de films d'action des années 80, quoi.
Non, mais bien sûr. Mais justement, le truc, c'est que je pense que c'est sur ce point-là qu'il aurait peut-être pu upgrader un peu le film. Parce qu'il l'a quand même, mine de rien, upgradé le film. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire la formule. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, je pense que c'était compliqué d'en vouloir à Stallone, en fait, de ne pas faire John Rambo, de ne pas faire Rocky Balboa, qui sont des films qui sont vraiment portés par ce qu'il a vécu pendant toutes les années où il n'a pas pu les faire. Parce que, d'un autre côté, il a des acteurs qui n'ont pas son niveau. C'est-à-dire qu'il faut quand même, même si on lui a beaucoup reproché à Stallone d'être un gros bourrin, etc., c'est un acteur, c'est un mec qui vient de quelque part. Et du coup, c'est pas forcément le cas de Dolph Lundgren.
Non.
C'est pas forcément.
Encore que là, c'est pas le pire. Hein.
Non, mais. sans parler, non, mais je parle même pas encore des
Randy Couture et des.
Bah voilà, mais ça, c'est pas des acteurs, tu
non,
vois.
C'est pas des acteurs.
Mais le truc, c'est que. Mais même de Jason Statham, pour prendre clairement la personne qui est en dessous de lui dans la hiérarchie, on va dire, des Expendables. Et voilà. Mais ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve qui est intéressant qu'il a réussi à faire avec ce film-là, c'est qu'il a pris finalement les forces de chacun. À un ou deux défauts près, je vais en parler, un ou deux, je pense, miscast près, mais je pense qu'ils ont leur raison. Et il a pris les forces de chacun et il a essayé, en fait, d'en faire des personnages humains, ce qui n'était pas forcément le cas de ces personnages-là dans les années 80, qui paraissaient comme des personnages plus grands que nature, en fait. C'est-à-dire que Schwarzenegger et Stallone, c'était pas des hommes normaux, c'était des super-héros. Sauf qu'aujourd'hui, à l'ère des super-héros, en fait, Stallone, Schwarzenegger, Statham, tout ça, ils apparaissent comme des personnages humains. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a joué sur cette logique-là, puisque même si à l'époque Stallone avait 63 ans, bah, il montre en fait, par exemple, qu'il a une blessure à la main, si tu veux, qui l'invalide. Un personnage comme Jason Statham, il galère avec les meufs.
Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que pour le coup, ce qui était aussi déstabilisant, c'était effectivement qu'il en faisait pas, des icônes comme il l'avait été. Ils en faisaient même des fucked up. C'est-à-dire Dolph Lundgren est fucked up, Jake Lee complètement à l'ouest, Randy Couture, alors son psy. Enfin, c'est tous des cassés, quoi.
Dolph Lundgren, ça marche pas. Pour moi, le truc qui marche pas, et je mets ça sur le compte de. C'est-à-dire, j'aime bien Dolph Lundgren en soi.
J'aime beaucoup Dolph
Lundgren. C'est un musculeux sympathique.
Ouais,
mais le truc, c'est que, en fait, c'est pas un acteur. C'est pareil, c'est une montagne. Et en fait, il respire la santé, ce mec-là, à la base. On peut arguer que c'est peut-être le meilleur Punisher qui est élu, mais c'est parce qu'en fait, les autres sont vraiment à chier aussi, il faut être honnête. Et le truc, c'est que même en arguant que c'est le meilleur Punisher, Enfin, tu le vois pas en crasseux, etc., etc. C'est quand même un mec qui fait 1m95, qui est taillé, voilà. Et le problème, je pense, c'est que ce perso-là, il était prévu pour Van Damme. Et
ah
Van Damme,
bon
pour le coup, il a un passif de drogué, etc., etc., qui collait un peu plus avec le perso. Donc, ça semblait plus cohérent qu'il soit. Et en plus, il a ce côté volatile, Van Damme. Tu sais pas où il va aller, en fait.
Bah, moi, je sais pas, parce qu'il y a quand même... Dolph Lundgren a quand même un passif... de personnages fucked up qu'il a souvent joué dans ses films. C'est pour ça que moi ça m'a pas du tout choqué. Je trouvais ça plutôt même marrant qu'il fasse ça. Il joue un prêtre taré dans Johnny Mnemonic, dans Universal Soldier.
Mais c'est pareil,
il est vrillé. Enfin, je dis pas
ça,
que
ça marche pas trop, moi je trouve.
Je parle pas que c'est un grand acteur ou pas. Mais moi je l'avais déjà vu en tout cas plein de fois dans ce.
Ouais.
Moi je trouve qu'il s'en sort. Moi je trouve qu'il a cette gueule qui te pousse à dire justement parce qu'il est puissant, parce qu'il est grand, il fait peur parce que s'il vrille, lui il fait peur. Et moi je trouvais que ça marchait plutôt pas. C'est plutôt ce qu'il en fait dans le film progressivement, qui bon, m'intéresse pas des masses.
Ouais,
mais
puis c'est surtout qu'il le fait disparaître pour le faire revenir à la fin, alors qu'il est censé être mort. C'est un peu étrange. Il y a ce truc où du coup, en fait, je trouve, tu vois, moi par exemple, j'aime pas trop Jason Statham, c'est un de ces musculeux que j'ai jamais trop compris, parce qu'en fait, je trouve qu'il est hyper monolithique dans sa façon de jouer. Mmh. C'est-à-dire que même quand on lui dit, t'es censé. Comment dire, avoir peur pour ta fille, ou je sais pas, dans quel que soit le film, ou je sais pas quoi, il le jouera pas parce qu'en fait, t'as l'impression qu'il dit non, j'ai pas peur. Parce que moi, j'ai peur de rien. Et en fait, il est tout le temps en représentation. Et du coup,
voilà,
le problème, en fait, du coup, c'est que comme il a Stallone au-dessus de lui, qui lui, quand même lui demande, en fait, de jouer le mec un peu amoureux, le mec un peu machin, etc., etc., bah, du coup, il arrive, c'est le seul à avoir, pour moi, réussi à l'humaniser un minimum, en fait, et à le rendre sympathique. Mmh. Parce que, en fait, je pense qu'un mec comme Statham, il s'est dit, OK, c'est Stallone, je vais quand même l'écouter, c'est mon idole, quelque part.
Ouais.
Donc, il y a ces petits trucs, en fait, qui fonctionnent. Moi, je te dis, bon, Dolph Lundgren, je suis pas voilà. Moi, l'usage de Mickey Rourke, je pense que c'est bien d'aller chercher un grand acteur pour jouer cette scène.
Ouais,
parce que, globalement, tu l'aurais foutu dans la bouche de Chuck Norris, ça aurait pas marché. En
oui,
fait.
Mais, tu vois, mais moi, je dis pas le contraire. Je dis juste que tout ça apparaissait un petit peu décousu.
Complètement.
Il y a toujours un côté un petit peu décousu sur les intentions. C'est-à-dire que c'est ce qui nous avait apparu, en fait. C'était qu'on savait ce que nous, on attendait d'un truc comme ça. Et au final, je trouve qu'il le donne. Parce qu'on a quand même une scène d'action hallucinante. Au final, et t'es venu voir ça. Et puis surtout, plus ou moins bien fait, la scène de fight, moi, je trouve, entre Jet Li et Dolph Lundgren, c'est un peu pété.
Ouais, ouais.
Mais il te donne ce que tu attends. C'est-à-dire que tu dis, ouais, j'ai envie de voir les mecs se mettre dessus, même Randy Couture, Steve Austin, bah, tu là, ils vont se mettre sur la gueule. Et ça, il te le donne. Et effectivement, quand je revois le truc, je me dis, oui, il y a toujours ce côté décousu, mais par rapport à chaque acteur et à chaque personnage, c'est finalement malin ce qu'il a fait. Et l'air de rien, moi qui trouvais qu'il y avait du mal à rentrer dans le film, putain, je trouve que les 30 premières minutes, elles sont hyper jouissives. Les blagues, elles marchent, les persos, ils marchent. Enfin, t'es là, tu rentres dedans, t'as plus envie de quitter le film jusqu'à ce passage absolument magnifique de on prend l'avion, on revient et on défonce tout. Mais je veux dire, ça, c'est exactement pour moi la réponse à un Hobbs & Shaw, la réponse à un truc comme ça. C'est genre, on devrait pas le faire. Mais mec, vous êtes venu voir ça, tu vois, c'est comme une note d'intention de dire, bon, on a toutes les raisons de se barrer, mais en fait, on est venu voir un film d'action, alors on y va quoi, mais ouais, on repart et on les défonce tous, et à la fin, on fait « yeah ». Moi, j'ai pas vu une personne dans la salle qui était pas, mais genre, hystérique à ce moment-là du film, c'était génial quoi, quand il a fait ça.
Mais le truc, en fait, c'est qu'il y a aussi ce truc avec le film où tu sens que, pour moi, Stallone, ce que j'adore avec lui aussi, c'est que c'est un vrai héros d'action dans le sens où il a la gestuelle.
Ah, mais il a...
C'est-à-dire, il sait le faire, en fait. C'est-à-dire que même des passages, en fait, quand t'aimes le cinéma d'action, en fait, c'est fascinant de le regarder, en fait, toi, se mouvoir contre un mur, pointer son flingue, la façon dont il va pointer son flingue et tout ça. Et du coup, par essence, tu sens qu'il y a pensé à tout ça, dans sa gestuelle, à sa façon de bouger comme un héros d'action, parce que Rocky, il a une autre gestuelle qui est complètement différente. Voilà. Et du coup, en ouvrant sur les autres acteurs, tu sens qu'il s'est posé pas mal de questions sur. Alors, attends, quels vont être les concepts, en fait. C'est-à-dire que, pour aussi pété qu'il soit, moi je trouve effectivement, je suis d'accord avec toi, le combat entre Jet Li et Dolph Lundgren, l'idée,
c'est elle est parfaite.
Un grand contre un petit.
Mais c'est Abdul,
et en fait,
c'est son hommage à Bruce Lee, et tu vois, dans.
Voilà,
dans
alors,
mal fait, mais
pour être honnête, mais par contre, il l'amène. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les blagues sur Jet Li qui dit je suis petit, je suis petit, je suis petit, au moins, en fait, c'est placé, et du coup, en fait, la scène arrive juste après.
C'est ça.
T'as la même chose avec, alors t'as Randy Couture et Steve Austin, c'est quoi, c'est MMA contre catch,
mais ouais, clairement.
Voilà, c'est tous ces trucs, en fait,
mais c'est ludique, C'est-à-dire que tout
c'est ça.
Et puis, il s'en est pas caché. Il l'a dit, les problèmes qu'il a eu avec les acteurs qu'il a essayé de contacter. C'est-à-dire le fameux coup de téléphone à Van Damme qui lui dit c'est quoi mon rôle et tout ça. Il lui dit mais mec, tu viens, on va péter la gueule. On va se marrer.
Et là, surtout, ce qui est hilarant, parce que Van Damme, il se pose pas la question quand il fait 50 autres films de merde.
Bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tout ce côté ludique, il y est. Comme tu dis, il y a cette gestuelle, il y a cette compréhension de ce que ça a signifié. Et puis, il y a cet autre truc qui est pour moi, encore une fois, l'antithèse des pseudo-films d'action qu'il y a aujourd'hui, c'est que les mecs, ils y croient. C'est-à-dire qu'ils le jouent véritablement, malgré le second degré et la mise en distance évidente de la scène. Quand il s'agit d'être dans l'action, on est dans l'action. On ne ricane pas de l'action, on ne prend pas la pause, on n'est pas là pour dire « Regarde, tu vois, j'ai fini de me donner mon coup et je fais la pause derrière. » Non, il y a la souffrance, il y a la violence, elle y est. Quand Stallone, il se met à courir à la fin dans la scène finale, à shooter avec son pistolet, putain, mais tu sens la douleur, tu sens la fatigue, tu sens l'énergie, ouais, sens les chocs. Quand il tue un mec, putain, ça, il tue un mec, quoi. Et il connaît la valeur jouissive par rapport au genre et à la chorégraphie de la violence que de faire ça. Tu enlèves l'impact, tu enlèves le résultat, bah ça devient du Disney, ça n'a plus aucun intérêt.
Et le truc, c'est qu'il le vit sur le plateau. Alors il y a sur le DVD, il y a sur le Blu-ray,
ouais, super documentaire
Inferno, ouais. qui revient en fait sur tous les moments où il s'est pété la tronche en fait sur le film. C'est-à-dire que c'est un film qu'il a complètement porté, il l'a écrit.
Ouais.
Il y a alors ça c'est assez drôle parce qu'il y a 123 versions du scénar. Tu vois. Et en fait à la base, moi à l'époque j'étais tellement en attente du film que je suivais absolument toutes les news que je pouvais trouver. Et apparemment quand on dit il y a 123 versions du scénar, c'est pas forcément le plot en soi qui a changé, mais en fait tu sens qu'il a vraiment essayé d'adapter à chaque acteur qu'il essayait d'avoir. Parce qu'à un moment donné, il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait Wesley Snipes, qui est finalement dans le 3. Il y avait des rumeurs comme quoi il allait avoir, comment il s'appelle, Danny Trejo. Il y avait des rumeurs comme quoi il allait avoir tous ces trucs-là. Et en fait, je pense qu'il a réécrit à chaque fois une version avec, pour faire rentrer l'acteur, voir comment il pouvait le jouer avec. Et le truc, c'est que ça, c'est payant à la fin malgré tout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plein de problèmes structurels dans le film et tout ça, etc., etc. Mais ça, c'est payant parce que tu sens qu'il a essayé vraiment de les faire. Et surtout, il pousse le truc à fond. Moi, ce que j'adore dans le film, c'est s'il y a bien un truc en fait, que je retiendrai. Et c'est pour ça que j'aime pas les suites. En fait, j'ai beaucoup plus de mal avec. Bon, le 2, ça va encore. Il y a des trucs sympas, mais c'est vraiment, ça pousse trop la parodie. Quoi. Et alors, le 3, c'est carrément une honte. Mais c'est qu'en fait, c'est le dernier film pour moi d'action où Stallone vraiment en fait tout. Oui. C'est-à-dire que pas seulement la mise en scène, le scénar, tout ça, mais qu'en plus, il fait les cascades.
Tu sais, c'est ce qu'on se disait sur d'autres films. Là, pour moi, malgré tous les défauts qu'il peut avoir, ce film et toutes ses facilités, il a une énergie dans sa réelle, une énergie chez les acteurs que je ne retrouve pas aujourd'hui. Ce que tu viens de dire, au final, c'est exactement le même problème qu'à Marvel, tu vois. J'ai envie de te dire, on prend un film, putain, on a 25 super-héros. Comment on va gérer mes 25 super-héros? Et tu as l'impression qu'ils les rabaissent tous, en fait. C'est-à-dire qu'ils font du nivellement par le bas sur chaque personnage. C'est-à-dire plutôt que de jouer leur distinctif, plutôt que de... C'est tout le problème de leur délire idéologique du moment. C'est-à-dire que plutôt que de marquer les différences, ils sont dans un égalitarisme absurde qui fait qu'à la fin, ça doit tous être des écoliers de maternelle qui bouffent un kebab en se faisant des blagues. Donc, au bout d'un moment, t'as envie de dire le dieu, là, en fait, c'est plus vraiment un dieu, c'est mon copain d'école. Et lui, il a ce super pouvoir, mais en fait, non, on va pas l'utiliser parce que comme ça, il est comme les autres, ils sont copains, c'est la famille, tu vois, c'est le syndrome Fast and Furious de merde. Et là, t'as justement ce truc de... je vais presque triturer mon intrigue, comme le fait Marvel. Marvel triture son intrigue pour arriver à faire rentrer ses persos. Il fait la même chose, donc avec les mêmes travers, sauf que les persos, ils ont été réfléchis. Et ils sont tous extrêmement distinctifs. Ils ont tous leur particularité.
Tu t'en rappelles, en fait. Tu t'en rappelles.
Et tu t'en rappelles de chacun. Et chacun a son moment. Comme dans Marvel, ils ont chacun leur moment. Sauf qu'au bout d'un moment, si tu veux, dans Marvel, je ne vois plus la différence dans le moment des... C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'ils vont faire trois conneries et puis ils vont faire une pause à la fin. Là, les mecs, ils ont chacun leur particularité. Et même, j'ai envie de te dire, leur psyché. C'est-à-dire que le fait, par exemple, tu me dis, c'est pas Dolph Lundgren, c'est pas ce perso, mais attends.
Non, mais par rapport aux autres, j'entends, tu vois aussi.
Oui, mais le fait de faire revenir Dolph Lundgren comme il le refait revenir à la fin, c'est une connaissance absolue de ce qu'est Dolph Lundgren, qui est probablement, de tous ces acteurs-là, le plus fandard et le plus bienveillant. Tu vois, c'est le premier qui dit, bon, on va se marrer entre potes, on a 50 balais, on va délirer.
Mais sur le plateau, il en a chié. C'est-à-dire qu'en fait, le truc qui s'est passé, c'est que justement, la scène d'ouverture du film où il doit pendre un pirate somalien, là, déjà le concept est formidable. Quoi. C'est un truc où tu sens que comme il devait justement jouer La carte disruptive, c'est l'élément disruptif des Expendables, hein, celui qui est volatile. En fait, il avait, apparemment, sur le plateau, il a eu beaucoup de mal, parce que surtout, c'est une des premières scènes qu'ils ont tournées. Ouais. Et en gros, Stallone a dû le pousser, comme il a apparemment poussé tout le monde, en fait, sur le scénar, de toute façon, sur le film et sur le tournage, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et moi, je pense que voilà, dans Dolph Lundgren, oui, après, moi, je le trouve quand même très sympathique.
Non, mais à la fin, t'as quand même ce retour du Dolph Lundgren que tu connais, qui t'amène à la fin, tu vois, de cette manière-là. Mais.
Moi, non, mais tu vois, il y a tous ces trucs en fait où, par exemple, comment il s'appelle, Terry Crews, ah, il a la grosse fateuse et en fait il défonce des mecs dans un couloir et la scène elle est hyper jouissive, tu te rappelles. Jason Statham, il a ses chlasses, il a ses couteaux, tu vois. Donc qu'est-ce qu'il fait en fait à chaque fois qu'il va apparaître dans une scène, il va balancer ses couteaux. Tu le vois même au début en train de faire un pari avec.
Mais même si tu dis qu'il le rend humain. Il fait ce que fait Jason Statham, c'est il fait le kéké vachement plus que les autres. Toutes les scènes avec sa nana, c'est quand même énorme. Enfin, moi, je veux dire, un des dialogues que je préfère du film, c'est quand il pète la gueule à tous les mecs sur le terrain de basket, que sa meuf, elle arrive sur la moto et qu'il fait, je t'avais dit, t'aurais dû m'attendre parce que je vaux le coup. Tu vois, c'est genre, t'es là, tu fais, mais ouais, mais c'est Jason Statham, quoi,
mais,
vraiment.
Mais en montrant... Je trouve en fait un petit peu sa faille, justement. Ce que Statham n'a jamais vraiment accepté de faire, tu vois.
Oh, il l'a fait, attention, il ne faut pas oublier de nous dire quand même, Statham. Il a aussi prouvé qu'il n'était pas un mauvais acteur, quand même, dans
sa vie. Moi, j'ai beaucoup de mal avec lui. Mais bon, le truc, c'est qu'en plus, et l'autre truc, si tu veux, c'est que, en fait, bon, passons sur les trucs de Guy Ritchie, tout ça. Je m'en fous, je ne me rappelle pas de ces films-là. Mais par exemple, pour moi, j'ai beaucoup de mal avec un Statham quand il reprend le rôle de Bronson dans Le Flingueur, par exemple, si tu veux, et qui dénature certaines scènes, alors que c'est les mêmes scènes que dans l'original, tu vois, qui montre pour le coup un personnage aussi monolithique que Bronson, en tout cas l'image publique qu'il a, pouvait montrer justement qu'il avait des failles lui aussi. Là, en fait, il avait un terrain parfait pour faire ça, Statham, mais il le fait pas, tu vois. Il y a tout un truc, le transporteur, enfin tous ces trucs-là, c'est des trucs, c'est du monolithisme pur et dur, quoi. Mais après, alors il y a ce truc aussi où voilà, donc ce film a deux versions.
Ouais, est-ce que t'as vu le director's cut
Non, pas vraiment. En fait, c'est que
je l'avais vu, je m'en rappelle plus des.
Et en fait, c'est assez étonnant parce que. Les deux versions ont leurs qualités, je trouve, et leurs défauts. Les gens se demandent, tiens, comment ça se fait que, comment il s'appelle le personnage de Dolph Lundgren, il se retrouve sur l'île, tu vois, complètement au hasard. Mais à la limite, ce genre de truc, on s'en fout dans le scénar. Dans le director's cut, il te l'explique. Et en fait, c'est une explication de gosse de 12 ans. C'est-à-dire, en fait, il est monté dans l'avion avec les autres et il s'est caché, il est descendu. Donc, toi, tu te dis, ok, qu'est-ce que ça fout là, quoi, tu vois. C'est ce genre de truc un petit peu, c'est un peu plus fluide, on va dire, mais en fait, pas forcément pour les bonnes raisons. On comprend un peu mieux pourquoi il revient, d'ailleurs, en fait, si tu veux, à la fin. C'est pas une surprise parce qu'il est pas dans la scène d'action finale, hein, faut aussi voir ça. Et par contre, alors la scène d'action finale qui est vraiment montée sur la musique de Brian Tyler, là, en fait, qui est assez bourrine, qui essaye de faire du Jerry Goldsmith, évidemment moins bien, mais aussi vénère et tout. En fait, il change ça, il te met une espèce de rock FM pourri, tu vois, voilà, qui était dans la bande-annonce, quoi. Et du coup, je trouve que ça dénature énormément la scène, quoi.
Mais cette scène, je l'adore parce que.
Ah, moi, c'est pas compliqué, c'était ma berceuse pendant 2 ans.
La scène finale, elle est. Alors, outre le fait qu'évidemment, contrairement aux films d'action aujourd'hui qui, pour moi, n'en sont pas, c'est un film qui est vraiment un film d'action de mec qui sait ce que c'est l'action, qui a envie de le faire. C'est pour ça que je m'énerve sur d'autres films, c'est parce que dès la sémantique, quoi, dès la qualification du film, c'est faux. C'est un mensonge. On te dit un film d'action, c'en est pas. Ça, expande la gueule, c'en est un. Que le scénar soit pas génial et qu'il le triture, moi, il a compris ce qu'on venait voir et il te le donne.
Ouais, complètement.
Et ce que je trouve, moi, ce que j'adore, c'est que c'est loin d'être la scène d'action finale la mieux filmée, la plus cohérente, même la plus lisible, parce qu'on parle souvent de ça dans des scènes d'action.
Oh, ça va aller à peu près, ça va encore.
Tu vois même qu'elle a été faite à l'arrache, tu vois même qu'elle est chipouille, tu vois même que
ah bah les effets spéciaux sont à chier.
C'est bricolé, c'est vraiment. Mais quand tu revois derrière le docu, moi ça m'a, il y a un truc qui m'avait halluciné dans le docu, c'est qui te permet de relativiser certaines choses, même la perception de certains films. C'était voir Stallone. On parle de Stallone, quoi. On parle quand même d'un des mecs qui est une des plus grandes restas de l'histoire. Où tu te dis, il est dans un film avec les plus grandes restas de l'histoire. Et le mec, il est en train.
Tu parles d'Expendables, là.
Ouais, il est en train.
C'est pas les plus grands restas
d'histoire. Non, mais je veux dire.
D'action,
on est quand même dans des stars hollywoodiennes, entre guillemets. Enfin, t'en as beaucoup. Mais c'est pas ça, ce que je veux dire. C'est de voir ce mec sur le tournage négocier avec des intermittents du spectacle de là où il est, qui veulent leur putain de pause, et que lui, il est en train de dire non, s'il vous plaît, par pitié, est-ce qu'on peut tourner deux plans pendant le déj, je vous paye le truc derrière, t'sais. Et que tu vois un mec comme Stallone devoir supplier pour réussir à faire son film et y mettre tout ce qu'il a envie d'y mettre, et que tu sens qu'il y a des plans qui ont été tournés, mais je veux dire en loose day avec deux mecs dans un coin, vas-y, on fait pam 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 pam, tout ça. Il y a une énergie, une passion, un truc où on y croit, on croit dans la valeur, dans l'évocation. Le mec, il n'est pas en train de te dire qu'il va faire le plus grand film et le plus grand scénar du monde, mais il te dit, hey, je te réunis plein de stars d'action et tu vas en prendre plein la gueule, tu vas voir ce que je te promets et je vais tout faire, quitte à crever ma santé pour que tu aies ce que tu es venu voir. Et il le produit, il y a pas une scène qui n'a pas un moment jouissif, c'est-à-dire tout ce qu'on attend de jouissif, justement tout ce qu'un Hobson Shaw te fait croire qu'il va te donner dans sa bande-annonce, où tu te dis ça va être jouissif, tu ne l'as jamais. Et là, le mec, il réussit à te rendre parfois jouissif des trucs que t'attendais pas. Et parce qu'il connaît ça tellement sur le bout des doigts que c'est une façon de dire, bah ouais, tu veux des blagues comme ça, bah je te l'ai fait. Tu veux une fight de kéké, je te la fais. Tu veux le mec avec la sulfateuse qui va dématiquer tout, je te le fais. Tu veux la scène vénère où on casse des bras, je te la fais. Tout y est. Mais moi, je veux dire, c'est pour moi, c'est tu vois, c'était paroxystique, quoi.
À plus forte raison que une des versions du scénar en fait du film, c'était quand la scène d'action finale était décrite en deux lignes.
Ah ouais.
Et c'était ici, il y aura la plus grande scène d'action de tous les temps. Faites-moi confiance. Et en fait, si tu veux, c'était assez marrant en fait parce que je pense que c'était, il savait pas exactement comment il allait faire la scène, mais il s'est dit, il va falloir que ça n'arrête pas, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que il l'a fait. Donc oui, comme tu dis, il sait.
Ouais,
il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Exactement. Et il y a ce truc en fait où il l'a fait pendant des années, je veux dire. Même pour moi, des films que j'aime pas forcément de Stallone, hein, comme Rambo 3 ou les trucs comme ça, etc., etc., tu sens que c'est un truc où il allait se crever le cul dans le désert.
Oui, c'est ça,
mais bon, il avait 40 ans. Là, il en avait 63.
Oui, c'est
et je pense que c'est la dernière fois où il pouvait vraiment tenir. Parce que quand tu regardes Expendables 2, par exemple, tu vois bien que le combat avec Van Damme, c'est pas lui en fait. C'est pas eux. Limite, ils ont des masques numériques sur la gueule. Tu vois que dès qu'il faut courir dans un hangar de dos, de loin, c'est pas lui. Tu vois, parce que tu le reconnais, Stallone, on l'a tellement vu, tu reconnais la gestuelle, quoi. Et c'est ça qui est dommage.
Mais là, tu reviens à un autre truc qui fait que pourquoi encore aujourd'hui, moi, quand j'attends des blockbusters, eh ben, en général, tu vois, je préfère attendre un Stallone, j'attends un Tom Cruise et tout ça, parce qu'il y a une part de vérité dans un cinéma qui est devenu complètement fake tout le temps, c'est-à-dire il y a plus de réalité à l'écran, tu vois. On parle d'Obscene Show comme on parle des dizaines, moi j'ai plus de réalité à l'écran. Au bout d'un moment, c'est-à-dire à une époque on se disait c'est trop bien fait, tu vois. Maintenant on a l'impression qu'on voit les fonds verts, tu vois, c'est genre on voit que le mec il est pas dans la scène en fait, il est là, il fait semblant que, et que tout d'un coup t'as un mec qui arrive comme Tom Cruise et qui te dit je me suis vraiment mis sur l'avion, et t'as un Stallone que tu vois littéralement se jeter par terre, se faire mal,
derrière un hydravion.
Alors le cinéma, c'est pas le principe de réalité, c'est un principe d'illusion de réalité qui en arrive à être évocateur de plus en plus, quand il t'offre une réalité, si tu veux, face à des films qui ne cachent plus l'illusion. Il y a quelque chose d'étrange comme retournement de situation dans le cinéma. Je veux dire, on est dans un mensonge qui est une illusion de vérité pendant très très longtemps, et maintenant, on ne le cache plus. Donc moi, c'est vrai que je vois ça, j'ai l'impression tout simplement de voir des gars impliqués. C'est-à-dire, j'ai l'impression de voir des gars qui...
Après, honnêtement, je pense que
c'est... C'est du Jackie Chan, quoi. Je t'en donne pour ton argent, mais ce que je te donne, c'est quelque chose de réellement extraordinaire. C'est-à-dire, c'est de l'extraordinaire dans l'ordinaire, dans un réel. Ce n'est pas de l'extraordinaire dans de l'extraordinaire qui fait que ça n'a plus aucune valeur. Tu vois ce que je veux dire?
Après, en toute honnêteté, ce problème, il existait déjà dans les années 80. C'est-à-dire que quand tu regardais un mec comme Stallone, c'était un mec qui se donnait. C'était évident, c'était un type qui était dans la compétition. Même avec Schwarzenegger, on le sait aujourd'hui qu'ils se tiraient la bourre tout le temps. À côté de ça, tu avais un Chuck Norris qui se faisait pas chier les couilles. Tu vois, enfin, je veux dire, c'était vraiment pépère, déjà plan-plan. J'accroche, mais tu vois, les Uzi sont accrochés, quoi, au jean. Hein, tu vois, il faudrait surtout pas lever le bras, quoi. Tu vois, donc le truc, c'est que. Non, mais je moque un peu, mais voilà, c'est vrai que t'avais Stallone et Schwarzenegger qui étaient vraiment les deux mecs qui se la donnaient, quoi. Évidemment, Jackie Chan, c'est encore un truc à part, parce que voilà. Mais à côté de ça, bon, t'avais les autres qui voilà. Et du coup, finalement, en fait, c'est ces films-là qui restent malgré tout aussi. Même si Rambo 3, encore une fois, c'est pas un film super génial, tu vois. Enfin, en fait, le film, il est quand même resté, contrairement à Un porté disparu, tu vois.
Et puis voilà. Et puis je pense qu'elle est pas, la notion de performance, est indiscutablement lié pour moi au cinéma d'action. Tu vois, je ne l'ai jamais formulé de cette manière-là, mais,
c'est vrai,
mais la performance, elle y est. Aujourd'hui, tu sais que tu vas voir un film d'action, puis je n'ai pas envie de... Enfin, tu vois, Disney ou Fast and Furious, ou même d'autres films d'action, même des John Wick ou tout ce que tu veux, même s'il y a des petites choses que j'aime bien dedans. Et je trouve que justement, qu'est-ce qui me plaît, moi, dans John Wick 3 ? C'est que je vois des performances, tu vois ce que je veux dire, aussi truqué pistache, mais je vois des performances et je vois même des performances en termes d'idées de chorégraphie, là où ailleurs, ben, je la vois plus. C'est-à-dire que la performance, la plupart de ce qu'on appelle des films d'action aujourd'hui, sont des bandes démos de superviseurs d'effets numériques. Et c'est des très bons, hein, donc je veux... Mais bon, au bout d'un moment, la performance de l'effet numérique, tu l'as vu, j'attends la prochaine révolution qui va vraiment me mettre une claque à la limite en termes de VFX, mais je ne l'ai pas, je l'attends toujours, je trouve que tout,
bah,
tout
de toute façon, ressemble. Elle ne peut pas être déconnectée d'une logique de mise en scène, je pense.
De toute manière, je pense.
Mais après, le truc, c'est que, voilà, sur pour boucler la boucle sur Expendables, le premier, disons que pour moi, en tout cas, c'est... même si Stallone a fait d'autres films d'action depuis, c'est vraiment le dernier où il se donne à ce point-là, où c'est un vrai baroud d'honneur, en fait. Le 3, c'est du renoncement, hein,
le 3, mais même pas que ça.
Tu vois, je veux dire, des trucs comme Évasion, Escape Plan, ce genre de choses, voilà, c'est des films
où... Jusqu'au dernier Rambo.
Il y a beau
avoir un côté bricolé, sale, sympathique, il n'y a pas de...
Il n'y a quasiment pas d'action dans le dernier 20 ans,
hein, mais c'est vrai qu'il y a, t'as immanquablement dans le cinéma d'action un rapport au corps. Alors je vais pas faire mon cahier du cinéma, mais le rapport au corps, à ce qui renvoie, à ce qui signifie, est fondamental. On n'a pas eu 25 ans de héros bodybuildés pour rien, parce que ça avait une vocation par rapport au corps. On a été construit là-dessus. Maintenant, le rapport au corps est complètement différent. D'ailleurs, on est dans une société qui le refuse.
Quand tu parles de Marvel, un personnage comme Captain America ou des personnages comme Thor, c'est censé être des bodybuilders, hein. C'est censé être des musculeux, hein.
Oui, ils leur font prendre 25 kilos pour ressembler à des bouseux qui boivent de la bière, mais
c'est dans le dernier Endgame. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même un personnage comme le personnage de Gardien des Galaxies, Chris Pratt, à la base, l'acteur, c'est un gros. C'est un mec comme nous, quoi. Enfin, comme moi, en tout cas, tu vois, c'est un mec qui a du bide et tout, tu vois. Et le truc, c'est qu'en fait, on lui dit non, mais là, tu sais quoi, tu joues quand même ce perso de kéké, mais par contre, kéké est musclé.
Ouais.
Donc en fait le truc c'est qu'il les muscle quand même, mais ça sert finalement à pas grand chose, alors qu'en fait justement
je dis pas que l'un l'est pas, je dis c'est le rapport à ce que tu renvoies par rapport à ça, parce que je veux dire, pour moi c'est le syndrome 300, c'est à dire que les gens ils voyaient un film d'action vénère badass, tu vois, pour 3 et puis et c'était du Tahiti douche, c'est à dire que tout d'un coup c'est pas le corps musclé, c'est à dire t'as le corps musclé et t'as
c'est ce que j'allais dire,
t'as le corps de mannequin musclé, tu vois,
au final
les Marvel c'est des corps de mannequins musclés, mais c'est pas des corps d'action héros, tu vois ce que je veux dire.
Au final, Stallone et Schwarzenegger utilisent ce corps, c'est ça.
Ils l'utilisent véritablement.
Voilà.
Bon, bref, on va partir sur des choses tendancieuses, arrêtons-nous là.
Merci Yann.
Mais de rien.
Et merci à tous de nous avoir écoutés. On se quitte avec la musique bien dans le ton, encore une fois, de Brian Tyler, qui singe un petit peu les compositions de Jerry Goldsmith, période de Rambo 2. Je vous invite à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux qui comptent, hein, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Vous pouvez retrouver nos essais vidéo sur YouTube, donc c'est vidéo de stéroïdes. Les podcasts s'écoutent aussi sur Deezer, Spotify, et je vous dis à très vite.